Michel Grenier expose la préhistoire d'ici et d'ailleurs.
Plasticien et préhistorien, et c'est aussi un ami de longue date. On va essayer de se vous voyer. Bonjour Michel Grenier.
Bonjour Monsieur Malabave.
Michel Grenier qui expose donc à la Galerie des Amis des Arts à Ariane. C'est une petite galerie et puis c'est surtout une dynamique culturelle importante à Ariane. C'est dans la région de Manosque. Jusqu'au 21 août, Michel, cher Michel, vous exposez Préhistoire avec un S d'ici et d'ailleurs parce que la préhistoire c'est votre domaine.
Oui, enfin, c'est un de mes domaines de prédilection. Donc en fait je l'ai joint à mes activités d'artiste plasticien, je suis devenu chercheur associé au CNRS, un laboratoire toulousain, donc je suis non statutaire, je vis essentiellement de mon art, mais je suis aussi préhistorien.
Avec pas mal d'expositions en tant qu'artiste, mais aussi pas mal d'interventions, pas mal de fouilles, notamment à l'étranger, notamment à Bornéo par exemple, tout ça c'est pour le préhistorien.
C'est ça, c'est-à-dire que depuis quelques années maintenant, je suis intégré à des missions à l'étranger. Ça a commencé avec la Turquie, après je suis allé en Libye, je suis allé en Algérie, je suis allé au Maroc, je suis allé un petit peu partout. Et puis ensuite Bornéo et puis l'Afrique du Sud, voilà, où actuellement j'ai deux missions qui sont en cours.
Moi qui ne suis pas un grand spécialiste de l'archéologie, quand je dis Bornéo, je pense tout de suite l'homme de Bornéo, j'ai raison.
On pense plutôt à l'homme de Java d'habitude qu'à l'homme de Bornéo ou à l'homme de Flores. Pour l'instant, l'homme de Bornéo reste à découvrir, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de fossiles humains anciens.
Donc il y a encore des choses à découvrir.
Oui, c'est en majeure partie. D'abord, c'est une île gigantesque. Hein, il faut imaginer que la totalité de l'île, c'est une fois et demie la France quand même. Donc c'est quand même monstrueux. Et c'est encore sur un gros pourcentage couvert de forêts primaires. Donc c'est très difficile d'accès et évidemment donc dans ce cas-là l'archéologie reste encore à découvrir et à inventer quoi.
L'exposition s'appelle Préhistoire d'ici et d'ailleurs. Ça veut dire également que vous avez fouillé dans les Alpes de Haute-Provence et en Provence.
Oui, ça veut dire aussi que bien sûr j'ai commencé par fouiller localement dans la région, hein, donc dans le Vaucluse, dans les Alpes de Haute-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, un petit peu partout. Et donc effectivement, la série d'illustrations que je montre à Ariane, sont des illustrations pour la plupart concernent la préhistoire locale. Donc c'est des travaux de commande qui m'ont été demandés par différents musées, revues, magazines, etc. pour décrire en quelques images ce qu'on pouvait penser de la préhistoire à l'échelle locale. Donc en fait, c'est un assemblage de 25 illustrations qui n'ont jamais été exposées. Donc il s'agit d'une première, là je tiens à le signaler quand même. Et donc ces illustrations reprennent des évocations de paysages, d'environnement, de changements climatiques, etc., qui concernent la région. Il s'agit d'aquarelles sur papier, d'acrylique, de dessins au crayon, de différentes choses que j'ai fait aussi récemment pour le documentaire d'Axel Clévenot qui est récemment passé à la télévision. Donc il y a pas mal de choses qui sont concentrées autour de la préhistoire régionale et avec les quelques travaux faits en Libye et à Bornéo, d'où la raison du titre « Préhistoire d'ici et d'ailleurs ».
Alors, on sait généralement, Michel, que les archéologues, les architectes, les botanistes dessinent et croquent régulièrement leur vision, que ce soit des plantes ou des animaux ou des paysages, comme vous. Mais par contre, ce qui est étonnant et ce qui rajoute quand même quelque chose à tous vos travaux, c'est effectivement le côté artistique avec ces aquarelles, des aquarelles qui sont magnifiques, où on voit la guerre du feu quasiment. Donc je schématise un petit peu, mais voilà, c'est ça, on arrive à avoir une vision artistique de la préhistoire. Et ça n'est pas si souvent.
C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un exercice particulier, c'est-à-dire que c'est effectivement des vues d'artistes, mais qui sont absolument, c'est un petit peu des figures imposées, qui sont absolument dirigées par les données scientifiques que l'on possède, c'est-à-dire que j'invente très peu de choses, si ce n'est l'ambiance générale, la disposition éventuellement de la faune ou de la végétation, mais pour le reste, ce sont des choses qui sont données par les recherches scientifiques, c'est-à-dire les données climatiques, les données de végétation, les données de faune, les données anthropologiques le cas échéant. Donc ça reste des illustrations qui sont de l'ordre du plausible, c'est pas une invention ni une fantaisie de ma part. Donc ça donne des images qui sont tout à fait crédibles pour l'époque. On aurait pu avoir des paysages comme ça si on avait pu se rendre à, il y a 400 000 ans, etc. Voilà.
Et c'est comme ça qu'on voit, par exemple, la région de Quinçon, où maintenant il y a le musée de préhistoire des gorges du Verdon. Et c'est comme ça qu'on voit qu'on peut imaginer, et en tout cas à travers le filtre scientifique, ce territoire et cette période.
Oui, c'est exact. C'est-à-dire qu'en général, ce sont des dessins qui ont été commandés par le musée de Quinçon et la commune de Quinçon, et le conseil général. À l'époque, conseil général des Alpes-de-Haute-Provence, et donc ils servent de un petit peu de table d'orientation sur un sentier découverte qui mène à la Bombonne. Et donc là, on peut admirer la plaine de Quinçon du point de vue que j'ai choisi et se replonger dans les époques qui sont décrites. Alors effectivement, il y a eu beaucoup de changements paysagers, pas tellement les reliefs, mais le paysage lui-même évolue bien sûr. Et donc au niveau climatique, au niveau végétation, c'est incomparable. Donc ce qui se passe il y a 400 000 ans, on a des grandes plaines herbeuses, on a une forêt dite forêt parc avec des feuillus, et puis tout ça est hanté par des grandes faunes. Donc il y a du rhinocéros, il y a des bouquetins, il y a des aurochs, des chevaux, il y a plein de choses.
Hein. Et il y a quelques êtres humains.
Oui, et 400 000 ans, c'est le niveau ancien de la Bombonne, donc ils sont bel et bien là, probablement de manière saisonnière, c'est-à-dire qu'ils viennent contrôler le guet de passage sur le Verdon, que devaient franchir les troupeaux de grandes faunes, et ils viennent contrôler donc ce guet et évidemment chasser ce qui les intéresse. Donc au moment du passage des troupeaux d'aurochs ou de bisons ou d'autres animaux, ils viennent se servir un petit peu, c'est ça la clé de l'histoire.
Alors quand on pense préhistoire et dessin, évidemment il y a un mot qui vient à l'esprit, il y a un nom plutôt, c'est celui de Raon. Quel regard vous portez-vous sur cette bande dessinée très célèbre qui nous transporte de manière spectaculaire à la préhistoire, mais peut-être pas en respectant les valeurs scientifiques?
Bien, d'abord, je dirais un hommage graphique au dessinateur Chéret et Le Cureux, qui ont successivement ont dessiné Raon. Ensuite, c'est une préhistoire totalement fantasmée, c'est-à-dire qu'elle est très très éloignée de la réalité scientifique que nous propose l'archéologie. Donc effectivement, ce sont des aventures qui peuvent se passer dans un temps ancien, mais on prête des comportements et des psychologies à des personnages qui sont assez caricaturales et qu'on peut imaginer quand même. Maintenant, avec ce qu'on connaît, pas mal éloigné de la réalité scientifique et ce que nous propose l'archéologie.
Et on les fait parler en français en plus.
Ah ben bien
ça,
sûr.
Alors ça, c'est le summum.
Ça, c'est un souci.
Mais bon, voilà. Chose qui n'était pas dans la guerre du feu, par exemple, où effectivement, il y avait une espèce de jargon qu'on peut imaginer plausible et réaliste à l'époque de la préhistoire. Michel, que voit-on d'autre dans votre exposition ?
Bien, alors il y a ces séries de mon illustration qui retrace la préhistoire locale. Ça va d'ailleurs un petit peu plus loin puisque j'ai fait des évocations de l'âge du fer en évoquant la présence des Phocéens, des premiers habitants de Marseille, qui se sont aventurés en remontant le Rhône jusqu'à Cavaillon. Donc j'ai un dessin qui traite de ça. Et là, on est au 6e avant Jésus-Christ, donc on n'est plus du tout dans la préhistoire, mais dans la proto-histoire, c'est-à-dire le premier âge du fer. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut voir ? Eh bien, j'ai sorti de mes cartons un tas de croquis, de dessins préparatoires, d'esquisses, dont je me sépare et que je mets en vente, voilà. Simplement parce qu'il faut bien que je vive aussi.
Alors c'est étonnant, j'ai visité votre exposition, vous le savez. Ce qui est étonnant, c'est effectivement tout d'un coup qu'on pénètre dans un atelier, non pas d'un archéologue, mais d'un artiste. Et tout d'un coup, on se rend compte aussi que cet artiste, c'est cette dualité qui est particulière, ouais. dont on parle depuis déjà un petit quart d'heure, et qui fait que on découvre un univers qui est un univers à la fois artistique, à la fois scientifique, et puis en même temps merveilleux, puisque ça parle de nous.
Oui, alors vous avez bien résumé la chose. Il n'y a pas d'incompatibilité entre la science et l'art. Hein. Dans les deux cas, c'est un exercice cérébral. à la fois de rigueur et de sensibilité. Et il n'y a aucune, pour moi, il n'y a pas de cloison ferme et définitive. Si ce n'est que on peut pas agir de la même manière en science que ce que l'on agit en art. Donc il faut rester quand même un petit peu vigilant. En science, c'est la rigueur absolue qui s'applique, puisqu'il y a quand même une recherche de la vérité. Dans le cas de l'exercice des illustrations, évidemment, il y a la patte artistique qui s'exprime, mais en même temps, il y a une forme de rigueur, puisqu'elle est, elle rend hommage aux travaux scientifiques, et on ne peut pas s'affranchir totalement. Après, dans mon travail de plasticien, il reste deux tableaux que j'ai présentés dans cette exposition, qui sont complètement autre chose, et qui sont des tableaux purement de travail d'artistes peintres et plasticiens, qui sont des évocations, des impressions que j'ai eues en allant travailler à Bornéo. Et là, c'est totalement déconnecté du travail scientifique, et en revanche, c'est nourri des impressions émotives, artistiques qu'on peut avoir quand on est dans la forêt primaire.
Et puis en plus de cette exposition, Michel, et je sais que vous adorez ça, c'est vous initiez de temps en temps des enfants, notamment, à la taille de silex. C'est ce qui s'est passé mardi soir. Comment ça s'est passé à Rayanne? Est-ce que les Rayanais taillent bien les silex?
Non, en fait, j'ai laissé tailler personne parce que ça demanderait une organisation un petit peu différente et une préparation particulière. Et quand on reçoit beaucoup de monde, il est préférable de donner des explications et de faire une courte démonstration des technologies lithiques. Alors là, je parle un petit peu avec un langage professionnel. Il s'agit donc des techniques qui sont mises en œuvre pour tailler la pierre à l'époque de la préhistoire, dans les différentes périodes de la préhistoire. Donc ça a eu un gros succès, et surtout je fais ça volontiers auprès des enfants, parce qu'il s'agit pour eux d'éduquer leur esprit à une compréhension bien particulière de la chose préhistorique, et pour qu'ils comprennent quelque part d'où ils viennent, c'est-à-dire que malgré leur grande ancienneté du sujet dont on traite, ça reste quelque chose de très humain, et je tiens à le réactualiser, c'est-à-dire que je ne mets pas de dimension de temps sur les gestes que je fais. Et en faisant ces gestes qui sont issus de l'étude des artefacts, c'est-à-dire des outils taillés qu'on trouve en fouille, je fais simplement une réactualisation, je rends ça dynamique, et on oublie le passé. C'est-à-dire que tous les zéros qu'on met, d'ailleurs 10 000, 20 000, sont immédiatement abolis, et on est en face d'un artisanat extrêmement vivant. Donc ça dépoussière un peu l'image de la préhistoire, et ça change quelque peu les mentalités et l'appréciation qu'on peut avoir de cette période.
Il en demeure pas moins que l'invention de l'outil tranchant, c'est une étape importante dans l'histoire de l'humanité.
Oui, c'est-à-dire, c'est hyper important, et puis c'est la chose de base, c'est-à-dire que si on veut pouvoir agir sur le milieu naturel, c'est-à-dire par exemple sur les végétaux, sur la matière animale, si donc on veut se nourrir, si donc on veut se donner un instrumentum, un ensemble d'accessoires pour la vie quotidienne, si on veut aussi transformer la pierre, il faut une matière extrêmement dure, et la seule matière dure qu'on puisse avoir, c'est la pierre. Dans l'espace naturel, jusqu'à l'arrivée du métal, c'est-à-dire 2 millions d'années après l'usage régulier de la pierre. Quoi.
Est-ce que ça veut dire que justement l'outil tranchant, c'est une étape aussi importante que la conservation et la production du feu, que l'invention de la roue par exemple?
C'est-à-dire que c'est de savoir façonner un outil, de le rendre tranchant, comme par exemple quand les premiers outils dont on s'aperçoit qu'ils existaient à partir de plus de 3 millions d'années, c'est une mode de libération pour les premiers hominidés. Ça leur permet d'agir sur le naturel, ça leur permet de maîtriser leur environnement, et en l'absence de griffes, de dents, d'un outillage animal que possèdent les autres animaux, eh bien ça permet à cette espèce de primate, comme débutante dans la lignée humaine, de devenir le maître à bord. Tout simplement.
Avec également l'utilisation de cet outil incroyable qui s'appelle la main et qui
Bien
fera
sûr.
La différence avec le règne animal. Michel, votre exposition, elle est visible jusqu'au 21 août. Vous êtes présent sur les lieux
au
Musée des Arts ?
Oui, je suis présent tous les après-midi de 16h à 19h et le dimanche de 10h à 13h. Voilà, on fermera donc dimanche à 13h. Alors si le cœur vous en dit, n'hésitez pas.
Il y a également un numéro de téléphone pour des rendez-vous. Vous le connaissez ou
Je ne le connais pas par cœur. Je le découvre avec vous. Enfin, si je le connaissais, mais je l'ai... Ah bah c'est mon numéro, ça tombe bien. Donc c'est... Mais je vais pas le donner à l'antenne, ça m'ennuie un petit peu quand même.
Bon, on le donne pas. Allez de toute façon à Rayane, c'est magnifique. Et voilà. Puis on salue aussi cette association, les Amis des Arts de Rayane. Il y a un petit endroit très émouvant dans votre exposition où on retrouve Émile et Henriette Loga, qui sont les fondateurs cette association.
Oui, c'est à côté du bureau.
Et qu'on a connu tous les deux et à qui on pense très fort. Notamment Henriette, qui est toujours parmi nous. Voilà. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été mon invité. J'ai vu qu'on a réussi à ne pas se tutoyer. C'est pas mal. On va reprendre ça après, une fois que les micros seront fermés. Et c'est une superbe exposition à voir. Préhistoire d'ici et d'ailleurs, Michel Grenet. C'est jusqu'au 21 août à Rayane. Voilà. Merci aussi, Emeline, pour la régie. Et à très bientôt.
Je vous remercie, François Malabeuf.
Merci François, à bientôt.